Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, tu es resté dans mon cœur. Quand Rachida reprend le 15 juin 1985 sur la place de la Concorde la célèbre chanson de Charles Trenet, il signe brillamment l'hymne des hybrides, ces Français capables de réinventer ce pays si singulier. Racontez le rapport à la France. Voilà ce que propose Douce France, le podcast des hybrides. Parce que pour comprendre ce pays, et soi-même aussi, il faut l'avoir expérimenté, de l'intérieur. Au fil des numéros, nous recevrons des profils divers et variés. Avant tout pour raconter des trajectoires de cette douce France. Parfois aimée, parfois détestée, parfois fuie, parfois retrouvée aussi, mais qui ne laisse personne indifférent. Quand l'hybridité vous place à un poste d'observation privilégié pour raconter la France, ses questionnements, ses peurs, ses doutes, ses espérances aussi. Autant en profiter, non? Pour ce numéro, nous recevons Camilia Otmani, consultante en stratégie de communication. Elle nous raconte sa France et Gennevilliers, ville populaire du 92, là où tout a commencé. Douce France, le podcast audacieux de la France hybride. Bonne écoute.
Qu'est-ce que c'est pour toi l'identité hybride ?
Pour moi, une identité hybride, c'est une identité en constante construction et interrogation. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, moi, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté le fait que j'étais une fille de banlieue. Eh ben non, j'ai rajouté ça. Et voilà, pour moi, une identité hybride, c'est une identité qui n'a pas peur de se questionner et qui n'a pas peur de prendre plus, tu vois, d'être plus. Je pense qu'il faut jamais avoir peur de ça. Et c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire et donner aux racistes, aux identitaires et à ceux qui voudraient étouffer notre richesse plurielle et notre diversité. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse leur faire tout assumer, absolument tout. Je suis une femme, j'ai grandi en banlieue. Je suis française, j'ai décidé d'être algérienne, d'avoir la nationalité algérienne à 25 ans. Je suis donc binationale, j'ai voyagé dans tout le Moyen-Orient, je me sens profondément orientale. Je suis originaire d'Afrique du Nord, donc je suis africaine. Voilà, je suis tout ça. Je suis tout ça, il n'y a personne qui peut ou qui a le droit de me dire que je suis moins que ça. Je suis pas du tout de ce côté-là, je suis de l'autre côté, je suis à l'est, mais je la trouve très belle et je trouve qu'elle dit plein de choses. Il y a beaucoup de mélancolie, mais il y a beaucoup, on sent beaucoup de, ouais, d'amour, d'attachement pour la région, pour le pays, et je trouve cette chanson sublime.
C'est un podcast Douce France qui interroge les identités hybrides, et en ce moment il se passe quelque chose de très intéressant de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Les Algériens ont décidé de refuser le destin que Abdelaziz Bouteflika semblait vouloir écrire pour eux avec ce cinquième mandat. Est-ce que tu suis ces événements ?
Oui, je suis ces événements de très près. Et en fait, c'est assez particulier parce que j'y croyais plus. Je sentais que je perdais un peu espoir et je me sentais un peu détachée de la situation politique en Algérie parce que je voyais mal comment est-ce qu'on pouvait trouver une issue et une solution collective. Et en fait, ces événements-là m'ont vraiment redonné espoir, mais d'une manière inexplicable en fait.
Vendredi dernier, pour la première fois depuis 20 ans, des dizaines de milliers d'Algériens ont défilé contre le président Abdelaziz Bouteflika.
Les Algériens défilent dans les principales villes du pays.
Manifestants qui protestent.
Protests against the ailing president of Algeria.
Contre le cinquième mandat brigué par l'actuel président Abdelaziz Bouteflika.
Raïssa Bouteflika bil'adoul yani tarashaha li'uhdat jadida.
5 ans de plus avec Abdelaziz Bouteflika et son clan et la situation ne fera qu'empirer, disent-ils.
Comment tu as accueilli ce cinquième mandat annoncé par Bouteflika ?
Ah, comme une humiliation. Vraiment.
Humiliation qui revient.
Ah, vraiment comme une humiliation. Comme une humiliation. C'est-à-dire que sur la scène internationale, je ne vois pas d'autres pays qui se permettent de traiter son peuple avec autant de mépris. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un point où on ne se cachait même plus. C'est ça qui me... C'est-à-dire que même les apparences, c'était un énorme doigt d'honneur. Au peuple algérien, à la diaspora algérienne, c'est ça en fait, donc comme une énorme humiliation.
Et alors là, Bouteflika a décidé de démissionner, relatif. En tout cas, il a démissionné, on va entrer dans une phase de transition où les enjeux sont très importants. Qu'est-ce que tu penses de cette pente dans laquelle l'Algérie est en train d'aller ? Est-ce que c'est une pente... qui n'est pas dangereuse, qui peut être dangereuse, qui peut être glissante.
Alors, encore une fois, il faut prendre cette question avec beaucoup de précaution. Parce que ma première impression, c'est quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques années avec les printemps arabes. Contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas accueilli ça avec autant de joie et d'espoir. Je me suis dit attention. La démocratie, la révolte. Alors, je suis pour. Je pense qu'on mérite la démocratie parce qu'il y a des gens qui disent oui, non, vous êtes les Arabes, ils sont dans un système autoritaire différent, le schéma politique qui leur convient, c'est pas le schéma démocratique. Moi, j'en suis profondément convaincue, mais je savais aussi que c'était beaucoup plus complexe, que les questions géopolitiques allaient s'entremêler. Et tu vois bien où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais force est de constater qu'avec ce qui se passe en Algérie, on est sur un schéma différent. On est sur un schéma différent, on s'est révolté, on s'est indigné, on s'est soulevé de manière pacifique, avec humour, avec intelligence.
Humour, intelligence, subtilité.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Enfin, je sais pas si toi, t'as des souvenirs de ce qui s'est passé en Tunisie, alors qu'ils ont de l'humour, les Tunisiens. En Libye, en Syrie, il y a eu beaucoup de violence. Et c'est normal, je reproche pas au peuple d'avoir utilisé les moyens qu'il jugeait nécessaires pour son émancipation. Mais la méthode algérienne, si on peut appeler ça comme ça, bah, elle était complètement inattendue. Moi, je m'attendais pas à ça. Et j'en ai tiré une immense fierté.
Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une image de l'Algérien et de l'Algérienne qui est abusivement dégradée ? Parce que finalement, ces marches-là qui ont eu lieu pendant un mois et demi, mais ça continue, elles ont, comme tu dis, montré une ambiance pacifique, beaucoup d'humour, on parlera d'humour, je veux bien aussi. Et finalement, c'est à contre-courant, ça prend contre-pied de l'image de l'Algérie, des Algériens, qui n'est pas très glamour et qui est certainement aussi liée à un passé... historique qui n'est pas soldé.
Oui. Alors j'ai eu une pensée un peu romantique hier en réfléchissant à tout ça et je me suis dit peut-être que si ça marche comme ça marche actuellement et si ça n'a pas été réprimé dans le bain de sang qu'attendait tout le monde finalement et puis les manifestants en premier parce que je pense que derrière cet humour il y avait aussi une grande peur que ça recommence comme avant avec la guerre civile. Je me dis qu'en fait, ce qui lie toutes ces personnes-là, les avides de pouvoir, les révoltés, c'est peut-être l'amour de la patrie, c'est peut-être l'amour de l'Algérie. Je sais pas, peut-être que c'est trop romantique, peut-être que je suis dans une vision... Mais je me dis, s'ils réagissent de cette manière-là, alors que tous les autres pays ont montré un exemple différent en matière de répression, en matière de... Peut-être que derrière, il y a un vrai amour pour l'Algérie, un amour de la patrie et une volonté de ne pas détruire ce qui a été si difficilement, tu vois, construit au fil des années.
Ça fait penser quand même aux États-Unis, en fait.
Oui.
où c'est un pays en fait avec énormément d'inégalités. C'est très, extrêmement difficile quand on est dans les marges, qu'on soit minorité ou minorité économique aussi, ça va souvent avec. Mais quand il s'agit de se mettre sous la bannière étoilée, les mecs, ils y vont, quoi. Il n'y a aucune interrogation. On a le sentiment, ça m'a fait penser à ça, quand même.
Je pense que c'est très juste. Vraiment, je pense que c'est très juste. L'autre parallèle qu'on peut faire, c'est la violence avec laquelle les deux pays se sont construits, sont devenus indépendants. Enfin, ce serait pas. Non, je trouve que c'est une comparaison qui est très juste. Et tu vois, pour revenir aux premières questions que tu me posais, moi, je suis de la troisième génération. C'est-à-dire que c'est même pas mes parents qui sont venus d'Algérie en France, c'est mes grands-parents. Je suis de la troisième génération. Et je vis ça comme si j'étais une Algérienne d'Algérie qui était née, qui avait grandi là-bas, et ça me prend aux tripes de la même manière.
Enfin, et comment tu l'expliques, ça? Parce que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que, tu me l'as dit, tu n'es jamais allée
non,
en
jamais.
Algérie.
Non, jamais. Non, c'est très étrange. Ça peut sembler bizarre, mais j'ai toujours gardé un lien. Alors, le lien, je l'ai gardé avec l'actualité. Je suis l'actualité algérienne de très près. Le lien, je l'ai gardé via la langue. Comme je t'ai dit, je suis de la troisième génération, donc chez moi, ça parle français, mais j'ai pris des cours d'arabe depuis que je suis toute petite. Ça passe également par la culture, l'histoire. Je connais l'histoire de mon pays, j'ai appris cette histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école. Hein. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui a été personnelle. Et tu vois, moi, je pense que... Enfin, si je ne suis pas allée, c'est juste un hasard. Jusqu'à présent, c'est que, voilà, moi, quand on était petit, ma mère avait peur de nous emmener à cause de la guerre civile. On a grandi, moi, je suis issue d'une famille modeste, on est 5 enfants. Prendre tes 5 enfants avec un billet à 1 000 euros et passer 3 semaines au bled, c'est compliqué. Mais je vais y aller bientôt, je pense le faire bientôt. Mais je pense que c'est tellement... ça représente tellement de choses pour moi. Je pense que c'est tellement chargé émotionnellement que peut-être que je retarde, en fait, cette échéance-là. Parce que je pense que je vais pleurer. Quand je vais y arriver, parce que voilà, c'est tellement énorme pour moi. Je m'en suis fait une idée, en tout cas, qui est...
Au cours de lointain voyage, tout là-bas sous d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon.
Et alors, justement, cette relation à l'Algérie, elle s'est aussi tissée chez toi à travers la relation à l'histoire, et notamment à la guerre d'Algérie.
Oui.
Est-ce que ça, c'est la première pierre, en fait, de ton amour pour ce pays, de ta relation forte, même si tu n'y es jamais allée?
Est-ce que c'est la guerre d'Algérie?
Et sa mémoire, surtout.
Oui. Oui, oui. C'est le premier lien, en tout cas, c'est le premier fil que j'ai essayé de tirer. C'est le premier fil que j'ai essayé de tirer en parlant de ça avec mes grands-parents. Mon grand-père notamment, qui était dans la résistance en France. Donc c'est-à-dire que même notre histoire de résistance dans ma famille, elle est française. Tu vois, ça dit aussi quelque chose. Et j'ai été surprise, comme j'ai pu te le dire, j'ai été surprise de découvrir qu'il y avait une peur encore, un trauma énorme. C'est-à-dire que moi, je vais voir mon grand-père, toute fière de moi, j'avais 16-17 ans, je faisais mon TPE, et j'avais choisi de le faire sur l'Algérie, truc complètement. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'en dire plus sur tel sujet? Et puis il me regarde un peu paniqué, il me dit, mais Camilla, ça c'est de la politique, il faut pas en parler, c'est dangereux. C'est dangereux. Et mon grand-père, qui est un homme très courageux, Et j'ai vu de la crainte, en fait. J'ai vu de la crainte dans son regard. Bon, évidemment, à ça, je pense qu'il y a aussi la pudeur culturelle, une pudeur naturelle, culturelle qui s'ajoute. Mais il y a un vrai trauma. Et je pense que ça va être... comment dire? C'est une difficulté qu'on va devoir surmonter pour accéder pleinement à la mémoire, à cette mémoire-là. C'est-à-dire que même nos anciens, même ceux qui ont été du côté de la libération et de l'indépendance, ils ont tellement du mal à en parler... Le traumatisme, je ne sais pas s'il est encore trop récent. Comment on va faire, nous, pour s'approprier ça? C'est une vraie question que je me pose. Mais voilà, effectivement, la guerre d'Algérie, ça a été le premier fil que j'ai tiré. Et j'ai été voir directement la source, hein, donc ceux qui m'étaient le plus proche, pour comprendre et me situer, en fait, dans cette histoire.
Est-ce que tu es d'accord quand on dit oui, mais les Algériens, et notamment les Algériens qui sont là-bas, s'en fichent de la guerre d'Algérie? Des jeunes générations, en tout cas, s'en fichent de la guerre d'Algérie et de cette mémoire. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se rejouer, là, avec les manifestations? Revenir à ces idéaux de 1954?
Comment est-ce qu'on peut se foutre de la guerre d'Algérie quand on est algérien?
Je te rappelle de Macron, ce que Macron disait en voyage quand il était l'année dernière, il me semble. Oui, mais ça, vous n'avez pas vécu la guerre d'Algérie, il disait ça un jeune. En fait.
Oui, non, mais ça, c'est vraiment les paroles de. Enfin, de toute façon, son manque d'amour, d'empathie, il est légendaire. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu quelque chose qu'on n'en garde pas des traces en nous-mêmes, que ça structure pas notre identité, qu'on s'appuie pas sur ça pour construire notre rapport au monde. Je veux dire, toute la mémoire de la Shoah, si tu regardes la mémoire aussi de l'esclavage avec les Noirs, c'est comme si tu disais à un Noir aujourd'hui, oh non mais l'esclavage tu l'as jamais vécu, qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds avec tes histoires? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, si l'histoire et le passé nous servent à notre construction, à la construction de notre identité, et surtout nous, en fait, on est dans une posture tellement particulière. C'est-à-dire que on est algérien, mais on vit en France, le pays qui a colonisé notre autre pays pendant des années, pendant des décennies. Tu vois? Donc, si on comprend pas, si on détricote pas la guerre d'Algérie, si on s'interroge pas dessus, comment est-ce qu'on fait pour passer à autre chose? Comment est-ce qu'on fait pour se comprendre de manière sereine, j'ai envie de dire? Parce que moi, il y a quelque chose dont je suis convaincue, c'est que si on apprenait mieux l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la guerre d'Algérie, moi j'ai des profs dont je me souviens très bien au collège, au lycée aussi, qui me disaient... Je vous apprends pas la guerre d'Algérie à vous comme j'apprendrais à un collège ou un lycée parisien. Tu vois, il y avait un parti pris, il y avait un véritable parti pris de la part de mes professeurs.
Dans quel but?
Dans le but de pas trop nous exciter. C'était clair. Dans le but de pas trop nous exciter, dans le but de pas trop nous révolter. Moi, je me souviens, mais vraiment, c'est un souvenir très. Je me souviens même la place où j'étais dans la classe pour tenir. T'as la prof qui dit. C'est la France qui vous a donné votre indépendance. Vous ne l'avez pas prise, on vous l'a donnée. Vous n'avez pas gagné la guerre d'Algérie, on vous a donné la victoire. En se plaçant comme ça, tu vois. On, vous. Dans une classe composée à 90% de fils et filles d'immigrés. Ou issus de la diversité comme ils peuvent le dire aujourd'hui.
Tu vois. Français.
Voilà. Donc c'est violent. Et peut-être que c'est ça, en fait, le premier rapport que j'ai eu à la guerre d'Algérie en y réfléchissant bien. La première fois qu'on me l'a jeté dans la figure. Parce que la première fois que j'ai été le chercher, c'est, comme je t'ai dit, en discutant avec mon grand-père. Mais voilà, c'est ultra violent. Mais si on expliquait toutes ces choses-là de manière sereine, de manière transparente, tout simplement, mais ce serait tellement plus simple pour tout le monde. Que ce soit la guerre d'Algérie ou autre chose, ou un autre trauma. Enfin, tu vois, c'est pareil.
Il faut quand même dire que tu étais au lycée il y a combien de temps ?
10 ans.
Voilà.
Ouais, 10 ans.
C'est
important. Ouais, c'est il y a 10 ans. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'espère d'ailleurs.
Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'étais au lycée il y a 20 ans.
Oui.
Et il y a 10 ans, c'est pas beaucoup, quoi.
Non.
C'est ça, c'est pour ça que je dis
ça. Ah, c'était pareil pour toi aussi?
Ouais. Non, mais j'ai pas le souvenir d'avoir un cours particulièrement important sur la guerre d'Algérie. C'était
D'accord.
Quoi. Ouais. Alors que ça l'est pas.
Non, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Et moi, je pense que, tu sais, c'est un peu comme ces histoires de... Enfin, à vouloir tout mettre sous le tapis, on résout rien. On fait l'autruche, on résout rien. Les problèmes, ils sont toujours là. Je sais pas, parce qu'on fait semblant de pas les voir, qu'ils disparaissent. Et voilà, abordons ces questions-là. Ces questions-là sont importantes. Le ressentiment qu'il y a, la rancœur qui peut exister. En fait, moi, ce ressentiment, cette rancœur, je la comprends. J'ai pu le ressentir un moment, j'ai fait mes recherches. Parce que j'avais les armes intellectuelles pour le faire. Tout le monde n'a pas ça. C'est aussi le rôle de l'école. C'est aussi le rôle de l'éducation nationale et de l'instruction.
Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les familles algériennes, notamment celles qui ont été impliquées dans la guerre, les familles font grandir leurs enfants avec une espèce de haine de la France, Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est n'importe quoi. Enfin, je parle pour mon cas, mais jamais de la vie. Je veux dire, encore une fois, moi, je suis de la troisième génération. Je suis née ici. Mes parents ont fait le choix de rester en France et de vivre en France. Au bout d'un moment, on n'est pas complètement schizophrène. On va pas rester dans un pays qui nous dégoûte, qu'on exècre, qu'on méprise. Non, enfin, mes parents aiment vivre en France. J'aime vivre en France. Je suis française. Et on m'a pas élevée dans la haine de la France. Je veux dire, tu sais, il y a aussi quelque chose. Un Français pure souche, entre guillemets, qui critique la France, bah, il est limite dans le cadre d'un devoir patriotique. Nous, quand on émet des critiques sur notre pays, la première chose qu'on lui dit, bah, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais non, c'est mon pays, et donc parce que c'est mon pays et parce que c'est le pays dans lequel je vis et que j'aime aussi, j'ai le droit d'émettre des critiques, et c'est même mon devoir en tant que citoyenne.
Bah, la question que tu soulèves, c'est la question de la légitimité. Mmh. En tant que Française algérienne, donc Française née en France d'origine algérienne et de nationalité aussi algérienne, est-ce qu'il y a un espace où on est vraiment légitime, que ce soit en France ou en Algérie ? Parce que finalement, en France, on te dit que t'es pas assez français, et en Algérie, on te dit que t'es l'immigré. Cette question de la légitimité, est-ce qu'elle t'a posé question et comment tu l'approches ?
Alors oui et non. C'est-à-dire que, bon, moi, voilà, j'étais à l'école, j'ai grandi, j'ai appris, comme tout élève, comme toute jeune dans ce pays. Et la première fois que je me suis posé la question de l'intégration, c'est quand on m'a posé cette question. Parce que moi, je ne me suis jamais posé la question de mon intégration. Je suis française, je suis née ici. En plus, j'ai un parcours littéraire, donc j'ai un rapport à la langue, même française, qui est très... Voilà, j'aime la langue, je suis passionnée de littérature, donc ça, c'est aussi important. Et donc oui, je me suis posé la question de mon intégration et de ma francité, si on peut dire ça comme ça, quand on me l'a posée. Et puis de toute manière, avec toutes les polémiques, on est obligé de se la poser cette question. Parce que même si on n'a pas envie d'y réfléchir, même si on n'a pas envie d'y penser, qu'on est tout à fait à l'aise avec nous-mêmes, on passe tellement notre temps à nous rabattre les oreilles avec « oui, mais être français c'est ça ». Bah, si être français, c'est manger du cochon, boire du vin et je sais pas moi... Et voter Marine Le Pen, non, je ne suis pas française. Si être française, c'est aimer un pays dans lequel on a grandi, où on a fait ses études, aimer la langue française, aimer la culture, avoir cet esprit critique typiquement français, cette manière de tout remettre en question en permanence. Si c'est ça être française, alors oui, je suis française à 100%, tu vois.
Et alors toi, tu as grandi à Gennevilliers,
oui.
Dans une cité.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est que de grandir dans une cité ? Parce que pour beaucoup de gens, c'est presque un mystère, ou en tout cas, il y a des fantasmes.
Ouais,
est-ce que c'était des bons souvenirs ?
Bah écoute, j'y habite toujours, donc j'habite au Lutte, à Gennevilliers, donc c'est une cité qui a souffert d'une mauvaise réputation pendant des années, à cause des trafics de drogue et tout. C'est vrai que c'était dans les années 90, surtout, c'était compliqué. Il y a eu des gros efforts de la ville en termes de réaménagement. Il y a des tours qui ont été détruites. Enfin bref, le territoire a été réaménagé. C'est plus agréable. C'est plus agréable d'y vivre. Moi, écoute... en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, mes parents nous ont toujours beaucoup protégés. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on a reçu une éducation très stricte. Il pouvait se passer ce qui se passait dehors. La maison, c'était un cocon. C'était un espace protégé. Et donc voilà, la vie dans la cité, moi je m'en suis jamais vraiment mêlée, j'ai jamais traîné en bas de chez moi, j'ai jamais... Enfin, donc ce que je sais de la cité, c'est l'expérience que j'en ai, c'est une expérience très positive, mais comme n'importe qui vit dans son quartier, enfin je veux dire, est-ce qu'on demande à un type qui habite dans le 16e, bah, qu'est-ce que ça fait d'habiter dans le 16e ? Est-ce que c'est comme on dit, avec des femmes qui portent des visons et qui marchent avec des caniches ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, j'ai grandi dans une cité... Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me demande ce que c'est que de grandir dans une cité, c'est d'aller à l'école et ensuite d'aller dans une école à Paris et se rendre compte que le niveau n'est pas du tout le même. Tu vois ? Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais sinon, je suis toujours rentrée entière chez moi le soir.
Mais comment ça t'a structuré, justement, par rapport à ta place dans ta cité, dans ta ville, par rapport à Paris ? en tant que Française, ça te structure forcément. Et là, ce que tu dis sur l'école, c'est intéressant.
Parce que c'est une périphérie supplémentaire. C'est une périphérie supplémentaire. C'est-à-dire que... Enfin, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a rien d'entier. C'est-à-dire que t'es pas entièrement parisienne, t'es banlieusarde. Donc t'es à 10 minutes de Paris en soi. Mais non, pas vraiment, t'es banlieusarde. T'es pas entièrement française, parce que t'es aussi algérienne. Mais t'es un peu des deux. Ou t'es complètement les deux. Et puis t'es une femme aussi. Parce que c'est pas la même chose, on se construit pas de la même manière. Surtout quand on habite... voilà, quand on habite dans une cité.
Est-ce qu'on rafistole des bouts ou on cumule des atouts ? Ou des handicaps d'ailleurs.
Moi j'ai décidé que je cumulerais des atouts. J'ai décidé que je cumulerais des atouts. Parce que pendant un moment, je dis pas que j'ai eu honte du fait d'être née, d'avoir grandi en banlieue, mais si tu veux, j'avais pas intégré ça à mon identité. Et c'est quand j'ai décidé d'intégrer ça à mon identité que je me suis sentie vraiment complète et plus riche, tu vois. Que j'ai compris. Parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on met des choses sous le tapis que ces trucs-là ils nous reviennent pas en pleine face. Quand j'ai décidé, oui, je viens de banlieue, j'ai grandi en banlieue et voilà, ça fait partie de qui je suis et j'ai un rapport à la culture mais aussi à la culture urbaine, aux cultures urbaines. Donc c'est à ce moment-là que effectivement je me suis sentie beaucoup plus complète et plus sereine.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Ton pire souvenir en cité ou dans ton quartier ?
Mon pire souvenir ? Ah bon, c'est des histoires de bagarre, hein. C'est des histoires de bagarre. Ma petite sœur avait eu un différend avec une autre gamine. Je m'étais interposée, c'est son père qui est venu, je me suis pris une droite. Ouais, bon, c'est un peu violent, mais bon, c'est pas...
Et ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir ?
Des ambiances, des atmosphères.
Ah, des rires. Des rires. Des rires, c'est... On est des charrieurs. On est des charrieurs dans les cités. C'est... Ouais, des rires. Des moments de partage, des moments de rire. Le fait de savoir qu'on peut toujours compter les uns sur les autres également.
On vit avec ses voisins aussi.
Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, ça c'est évident. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, on n'est jamais isolé. Il y aura toujours quelqu'un pour nous, avec nous.
Mais est-ce qu'on peut avoir une intimité dans ces cas-là ?
Bien sûr, tu fermes la porte de chez toi, t'as une intimité. Enfin, tu vois, c'est pas très compliqué. C'est pas comme... comment dire ? Y a pas, c'est pas intrusif, voilà. C'est pas intrusif, c'est-à-dire que on sait que si on a besoin, il y a une présence, tu vois. Mais il n'y a pas d'intrusion. En tout cas, moi, je sais que chez moi, c'est très clair. On nous arrivait de recevoir, on était reçus, mais il n'y a jamais des gens qui s'invitent comme ça.
Sur l'Algérie, donc, parce que c'est un peu le fil rouge là, de ce podcast... Tu as fait les manifestations en République.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que tu as remarqué ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de binationaux au sens de journée en France ou pas ?
Bah, j'étais assez surprise de constater que non. Surprise sans être surprise d'ailleurs, hein, parce que moi, comme je te dis, c'est toujours la même question qui revient, celle de l'intégration. Je pense qu'on est beaucoup plus intégrés que ce qu'on veut nous faire croire. Et je le vois bien avec mes petits frères et sœurs aussi, qui sont pas si petits que ça, donc 25 et 22 ans. Ils ne se sentent pas concernés. Enfin, ils suivent de très loin. Ils ne se sentent pas spécialement concernés. Et ben, c'est clairement pas eux qui seraient allés manifester place de la République. Donc on avait des Algériens qui sont venus en France pour faire leurs études. On avait des Algériens, des immigrés. Mais des Algériens comme nous, donc binationaux, ils n'avaient pas des masses, quoi. Ils n'avaient pas des masses.
Est-ce qu'au-delà de la relation avec l'Algérie, est-ce que c'est aussi un rapport à la politisation
Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire.
Personne.
Oui, complètement. Je suis très politisée, mes frères et sœurs le sont beaucoup moins. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que cette histoire d'intégration, de rapport à l'identité, bah, en fait, c'est un rapport à la chose publique. C'est un rapport à la chose publique. Comment ce qui se passe en dehors me structure en dedans. Et ça, les jeunes générations... Alors, peut-être que ça fait... Est-ce que ça fait vieille idiote de dire qu'elles sont un peu moins politisées ? ou que ces enjeux-là les touchent moins. Je sais pas. Après, je prends cette affirmation avec des pincettes, parce qu'il faudrait quand même s'appuyer sur des données chiffrées, des études. Mais oui, c'est peut-être le... En fait, si tu veux, regarde. Ce qui préoccupe mes frères et sœurs, ce qui préoccupe les jeunes que je vois autour de moi, c'est quoi ? C'est de faire leurs études, des études qu'ils aiment. C'est de finir leurs études. C'est d'avoir un travail qui leur plaise, qui leur fasse gagner de l'argent. C'est d'avoir leur permis, c'est d'acheter une voiture. Ben en fait, c'est pas différent de ce que voudrait n'importe quel autre Français. Mais c'est ça les préoccupations autour de moi. Donc c'est les mêmes, quoi. C'est exactement les mêmes.
Et finalement, sur les questions, on parle beaucoup de crispations identitaires en France depuis une dizaine d'années. Est-ce que ces crispations-là, ces jeunes en souffrent, les voient ou pas ? Parce que d'après ce que tu me dis...
Si, je pense qu'ils les voient. Je pense qu'ils les voient, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément le temps d'en souffrir. Parce que quand on est pris dans un quotidien d'obligation, et on a tendance à l'oublier, mais on est une communauté, si on peut dire comme ça, qui surperforme à plein d'endroits. Il faut voir d'où on part, et généralement on arrive quand même à une certaine catégorie sociale. Et ça, c'est à force de quoi ? C'est à force de travail, à force d'études, à force d'investissement, à force de... Donc est-ce qu'on a vraiment le temps de pleurer sur notre sort ou de faire les victimes comme on nous reproche à longueur de journée ? Moi, personnellement, j'ai pas le temps. Mon combat politique, comment dire ? La première étape de mon combat politique, c'est ma réussite personnelle. C'est ça. C'est ma réussite personnelle. Alors, je vise à la réussite collective. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire par-dessus tout. Mais je me sauve, je sauve mes proches, chacun voilà, fait ce qu'il... Et je pense que tout le monde, les jeunes, ils ont conscience de ça. Ils ont conscience de ça. Donc, ils ont aussi conscience qu'ils sont discriminés quand ils s'appellent Mohamed, quand ils veulent trouver un taf. Mais ils savent aussi qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont s'en sortir. Et qu'ils pourront accéder à une certaine légitimité.
Tu me disais que par rapport à ton identité, qui est binationale, hybride, etc., tu es partie souvent en quête de cette algérianité, entre guillemets, à travers d'autres pays. Tu as beaucoup voyagé.
Oui.
Explique-nous.
Alors, comme je t'ai dit, je fais de l'arabe depuis que je suis toute petite. Au lycée, j'en faisais aussi. Et on a fait un super voyage magnifique en Syrie, donc en 2007. Et ce voyage, vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Ça a été une révélation. La Syrie, c'est un pays magnifique. Vraiment. Et la culture, tu soulèves une pierre, c'est 10 000 ans de culture, quoi. Donc, je me suis juré que j'y retournerai après mes études. J'ai malheureusement pas pu tenir ma promesse parce que la Syrie était en guerre. Donc j'ai réfléchi à un autre pays dans lequel j'aimerais aller, j'aimerais vivre, pour tenir un peu quand même cette promesse. Et j'ai été en Égypte, donc j'ai vécu là-bas quelques mois. Je suis aussi passée par la Palestine, bon évidemment Maroc, Tunisie, mais c'est bizarre. Alors quand je le dis, parce que c'est que tu me poses la question, hein. Mon algérianité, j'ai été la chercher partout sauf en Algérie.
Pourquoi ? Au-delà des motifs matériels, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose...
Comme je t'ai dit, en fait, ouais, je pense que je m'en fais tellement une idée, mais... Et c'est tellement lié à ma famille, tu vois. C'est tellement lié à ma famille, c'est tellement lié à mon héritage. J'aurais l'impression de trahir quelque chose si j'y allais pas avec mes frères et sœurs, tu vois, ou avec mes parents.
C'est presque un pèlerinage.
Exactement, t'as trouvé le mot. C'est pas un voyage. C'est pas un simple voyage, sinon j'ai fait des trucs de fou, j'ai pas peur, tu vois. Mais c'est pas juste un voyage, la charge émotionnelle, elle est telle que je peux pas juste prendre mon sac à dos et me dire, bon, je prends un aller-retour pour je sais pas trop quoi, et puis on verra bien, enfin un aller simple plutôt, puis on verra bien ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, si j'y vais pas avec mes frères et sœurs ou mes parents, j'irai avec mon mari. Tu vois ? Donc, ouais. Tu vois, c'est...
Les affects.
Oui, beaucoup.
Là, tu vas suivre, j'imagine, ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Qu'est-ce que tu espères comment tu vois les choses qui pourraient émerger? Alors, je ne te demande pas de faire de la politique, voilà, mais comment la société civile, elle pourrait s'immiscer, reprendre son pouvoir, comme elle a commencé à le faire?
Alors, j'observe ce qui se passe avec beaucoup d'attention, quasiment minute par minute. Parce que j'ai cette peur hein, que ça dérape. Et parce que à chaque fois qu'on obtient quelque chose, je me dis, mais on est arrivé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait obtenir. Et puis non, finalement, on arrive à obtenir davantage. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on lâche rien. Vraiment, c'est qu'on lâche rien, c'est qu'on continue la mobilisation et continue la mobilisation sur le même registre. C'est-à-dire aussi drôle, aussi intelligente, aussi pacifique, aussi... Moi, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup peinée, c'est de voir qu'il y a quelques... Je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, des militantes féministes ont été chahutées. Quand on est un peuple qui réclame son indépendance et son émancipation, et qu'on ne respecte pas ou qu'on ne désire pas l'émancipation de la moitié de 50% de la population, il y a un problème quelque part. Donc je pense qu'il nous reste du chemin à faire de ce côté-là également, tu vois. Et je le dis... Comment ?
Le code de la famille.
Bien sûr. Et je le dis, voilà, avec beaucoup d'amour. Et voilà, mais je pense qu'il faut être lucide hein, sur ces questions-là. Encore une fois, on ne met pas les choses sur le tapis en disant qu'elles n'existent pas. Ça existe, il y a un vrai problème d'égalité entre les sexes en Algérie. Et il y a surtout des vraies femmes qui se battent pour ça. Donc voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour que toutes les revendications, qui sont toutes légitimes à mon sens, soient entendues et soient traitées? Donc là, on va avoir un temps de transition de quelques mois pour écrire une nouvelle constitution, pour ceci, pour cela. Restons vigilants. Voyons si ce ne sont pas juste des effets d'annonce. Parce que la constitution, c'est bien. Celle qu'on avait avant, elle n'était pas mauvaise non plus. Hein, mais le problème, c'est qu'elle n'était pas... C'est qu'on s'en fichait. Une constitution, qu'est-ce que c'est sans des hommes politiques intègres qui ont l'avenir du pays et sa réussite à cœur? C'est rien.
Merci à notre invité de nous avoir raconté sa douce France. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Douce France est un podcast du média Melting Book réalisé par Nadia Enimoulaye et Sarah Hamdi. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook /Melting Book, Instagram @Melting Book Connection, Twitter @Melting Book. Douce France, le podcast audacieux des hybrides. Parlez-en autour de vous.